France Inter,
RFI, Radio France Internationale, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale, quatrième saison, première émission de cet été 2020. Nous allons vous faire voyager avec cette déclinaison de la librairie francophone dans un esprit culture du monde. Aujourd'hui, nous irons au Japon avec l'écrivain français Olivier Adam, à Marseille avec l'artiste créole David Walters et l'écrivain journaliste Franz-Olivier Gisbert. David Walters qui jouera aussi un titre acoustique dans notre studio. Nous vous ferons découvrir le casino de Montréal avec Denise Bombardier et nous rendrons hommage au regretté Manu Dibango. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, ce sont les clés de cette nouvelle saison. Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener un peu partout dans le monde.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Kérad.
Et on commence cette émission avec une nouvelle séquence. Nous avons demandé à 9 personnalités de nous raconter une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Pour cette première, c'est Atik Raimi, écrivain franco-afghan, lauréat du prix Goncourt en 2008, qui vous fait sa confidence. C'était dans la version télé de la librairie francophone. Une nouvelle émission de télévision est d'ailleurs actuellement diffusée sur RTS2 en Suisse, RTBF La 3 en Belgique, ici RTV au Canada et sur TV5 Monde partout ailleurs. On écoute Atik Raimi qui était donc sur notre plateau télé. Bonjour Atik Raimi.
Bonjour.
Une confidence pour la librairie francophone à la télévision.
C'est à propos de mon chapeau. Il y a quelques années, j'étais en Israël, au Salon du Livre de Jérusalem. J'étais dans un taxi, le chauffeur qui me conduisait au salon, il me regarde, me dit « Mais d'où est-ce que vous venez ?» Je dis de Paris, mais je suis d'origine afghane. D'un seul coup, il me regarde, il dit « Ah, il y a des juifs en Afghanistan ?» Je dis, bah, écoutez, oui, en effet, il y a deux synagogues, deux rabbins, etc. Mais moi, je ne suis pas juif, je suis né musulman. Encore, il dit, alors tu étais converti ? Il dit, non, je suis athée. Et là, encore perturbé, il me dit, mais alors pourquoi ce chapeau ? Parce que vous savez que nous, on met le chapeau pour vous rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous. Voilà. Et toi ? Je dis, moi, je me le mets pour m'en protéger. Il n'a pas pris l'argent.
Et c'est vrai, vous avez la course offerte.
Offert.
Bon. Merci à Atik Raimi.
Merci à vous.
Après cette confidence inédite d'Atik Raimi, une autre nouvelle séquence nommée le voyage immobile que vous retrouverez tout au long de cet été dans la librairie francophone estivale. Le principe, un lieu choisi par une personnalité qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Bonjour Olivier Adam.
Bonjour.
Bon, vous êtes un auteur français, vous avez publié de nombreux romans dits sociaux, salués par la critique et le public depuis 20 ans déjà. Votre nouveau roman, Les Roches Rouges, paru chez Robert Laffont, s'adresse aux jeunes adultes. On va en parler, mais avant, nous sommes dans un lieu très particulier, à Boulogne, en région parisienne, dans un jardin sublime. Racontez-nous le lieu.
Alors, ce sont les jardins du musée Albert Kahn, qui ont été fondés par Albert Kahn lui-même. Dans les débuts du 20e siècle, à une époque où les influences japonisantes étaient très fortes dans beaucoup de secteurs artistiques. Et lui-même, quand il a conçu ce jardin, il a conçu tout un secteur qui reproduit les jardins qu'on peut visiter et trouver dans les temples de Kyoto, notamment, au Japon. Et on y trouve la reproduction, la reconstitution de pavillons, de temples, de maisons traditionnelles japonaises, le portique d'entrée en bois sous les érables, un pont rouge au-dessus d'un étang qui lui-même est parsemé de nénuphars, des camélias qui ne sont pas en fleurs en ce moment et des azalées qui ne sont pas en fleurs non plus mais qui sont normalement le gros de la végétation d'un jardin japonais. Et puis, voilà, une pièce d'eau, des carpe-coy, un petit bois de bambou, on s'y croirait presque, quoi. On s'y croirait presque.
C'est vrai qu'on est au milieu de tout cela, c'est magnifique. Il y a une fontaine que vous entendez derrière moi avec l'eau qui roule sur des pierres et c'est très apaisant, c'est très verdoyant. Il y a quelque chose de très particulier avec une sorte de nature miniature.
Il y a une science comme ça de faire vivre un jardin d'une manière très libre, en suivant le fil des saisons et en même temps de le concevoir au cordeau, quoi.
Ouais, avec un parcours, effectivement, que nous avons suivi pour visiter le jardin tout à l'heure. Cet endroit vous fait penser à un autre endroit, quelque part dans le monde. On a tous deviné. Forcément, là, c'est le Japon, Olivier Adam.
Oui, c'est le Japon, et le Japon des temples et des sanctuaires, le Japon des collines et des campagnes, que j'ai la chance de fréquenter maintenant. Voilà, ces 15 dernières années, j'y ai passé plus d'une année par petits bouts, de 3 mois, d'un mois, de quelques semaines. Évidemment, c'est quand même un luxe de pouvoir séjourner régulièrement au Japon. On ne peut pas se le payer tout le temps, et quand il se passe trop de temps sans que je puisse y aller, il y a un vrai manque. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est un deuxième chez moi.
Alors faisons un exercice mental, Olivier Adam. Imaginez que vous êtes dans un endroit au Japon que vous aimez particulièrement. Qu'est-ce que vous voyez là ?
Ah bah, je vois des étendues de mousse verte sur lesquelles jouent les reflets du soleil qui se retrouvent endigués parfois ou au contraire laissés libres par des frondaisons d'érable d'un vert très tendre, quoi, voilà. Et dans cette mousse, des mini-statues de pierre représentant certaines divinités du bouddhisme japonais ou du shintoïsme, et surtout du bouddhisme, évidemment des bouddhas. Et voilà. C'est tout de suite dans un village qui s'appelle Ohara que je me... Et à la sortie de ce temple, c'est une campagne digne d'un film de Miyazaki, si vous voulez. On a l'impression d'être dans Totoro tout à coup, mais en vrai.
Oui, je vois très bien. Bon, dans Les Roches Rouges, votre nouveau roman, vous nous emmenez dans le Var, rien à voir, à Aigué, au bord de la mer, à côté de Saint-Raphaël, pas très loin de Saint-Tropez d'ailleurs. Une jeune femme, mère d'un enfant de 3 ans, fuit un compagnon violent avec son amant, un jeune homme doux qui a pourtant des choses à se reprocher. C'est l'histoire d'une détresse de jeunes adultes qui sont devenus pleinement adultes un peu trop tôt. À partir de quel âge on est adulte, selon vous, Olivier Adam ?
Je sais pas si je suis encore adulte moi-même.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Ce qui est intéressant d'un point de vue romanesque, toujours avec cet âge de transition de 15 à 25 ans, disons, c'est qu'il est immédiatement porteur d'expérimentation, d'apprentissage, d'initiation, puisque finalement tout arrive pour la première fois d'une certaine manière, puisque souvent il s'agit de se construire une vie alors que soi-même on n'est pas encore construit, et c'est un moment où se font des choix qui sont parfois irréversibles mais qu'on fait en fait un peu à l'aveuglette, quoi.
Alors Leïla, elle a 21 ans, son fils Gabi en a 3, Antoine, l'amant, compagnon, 18 ans seulement. Ils partent dans le sud de la France, ils pensent être à l'abri, ils pensent s'affranchir de leurs conditions, mais le passé et la vie les rattrapent. C'est ça le problème. C'est que quoi qu'on fasse, où que l'on aille, la vie, les histoires, le passé nous rattrapent toujours.
C'est-à-dire que oui, il a fui à la fois son mari violent, à la fois une histoire très compliquée parce qu'elle l'a connue alors qu'il lui était adulte et elle n'avait que 14 ans, à un moment donné où elle a cru consentir à quelque chose, et elle se découvre peu à peu avoir été victime. Cet homme est violent et par ailleurs Antoine, lui, fuit une forme de culpabilité. Tous les deux fuient la menace de cet homme, mais Antoine fuit ses propres démons intérieurs, quelque chose qu'il pense avoir fait ou qu'il a fait et qu'il a littéralement fait sortir de la route.
Une faute avec son neveu.
Voilà, une faute. Et il essaye de se racheter, en fait, en aidant cette jeune femme. Il essaye d'expier quelque chose. Et son premier réflexe, c'est de la mettre à l'abri dans ce décor des calanques, du massif de l'Estérel, de ces roches rouges, de cette mer turquoise, etc. Et en même temps, ils savent très bien que le danger est là et même qu'il les attend même là-bas, puisque, par exemple, Antoine va avoir la surprise de tomber dans cette maison qu'il croyait vide sur sa sœur, qui est l'incarnation même de cette faute et de cette culpabilité qu'il porte et qu'il croyait fuir. Voilà. On va devoir s'y confronter, en fait.
C'est ça. Toute l'histoire est là, ses destins brisés quelque part, et un peu comme ici, où nous sommes dans ce jardin japonais, Olivier Adam, il y a ce refuge vers la mer, ce refuge aussi proche de la nature. Se retrouver comme ça, au bord de la Méditerranée, ça apaise ces personnages, ça leur permet aussi et surtout de réfléchir à la vie autrement.
Oui, ça leur fait percevoir une vie possible, plus douce, plus lumineuse, même s'ils savent que d'une certaine manière c'est un mirage. Voilà, tout s'ouvre devant eux. L'horizon s'ouvre et la nature locale et la beauté des paysages a quelque chose de consolateur, quelque chose qui les répare.
Ça vous rassure, ça vous réconforte, ça vous répare aussi d'être dans des lieux comme là, dans ce jardin japonais, Olivier ?
Je sais que la mer d'un côté, la Bretagne où j'ai résidé longtemps et où je passe beaucoup de temps, le sud de l'Estérel où je passe aussi beaucoup de temps, ces endroits au Japon, de cette nature extrêmement apaisante, suave, douce, ont quelque chose qui me... Oui, J'avais écrit un livre, un de mes livres qui se situe au Japon, s'appelait Le cœur régulier. Et c'était un titre qui disait tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que mon pouls s'apaise et que quelque chose se raccorde en moi et me raccorde aussi au monde, quoi. Une connexion s'établit, quoi.
Voilà, on espère que chaque auditeur trouvera un lieu comme ça, un voyage à travers un lieu quelque part dans le monde. Merci beaucoup Olivier Adam.
Merci à vous.
Merci. Les Roches Rouges, votre nouveau roman qui vient de paraître et publié chez Robert Laffont dans la collection R, dédié donc à la jeunesse, mais tout le monde peut lire, hein, c'est un livre pour jeunes adultes, mais pas seulement.
C'est un livre avec des jeunes adultes dedans.
Voilà, avec des jeunes adultes dedans, voilà. C'est ça. À suivre dans la librairie francophone estivale, un hommage à Manu Dibango, disparu pendant le confinement, victime de ce terrible virus, un immense artiste qui nous manque déjà beaucoup. Sa générosité, son humour et son intelligence resteront gravés en nous. Un entretien qui va forcément vous émouvoir, ce sera après le chanteur québécois Louis-Jean Cormier et son nouveau titre.
De l'espace pour écrire, c'est large comme le ciel. Je me réentends te dire que je connais pas la suite. C'est étrange à quel point il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé derrière. Je fais tourner des photos dans une main. Sans remarquer les klaxons, même le signal pour piétons. Pitié de mon allure, qu'est-ce qui m'a pris de croire que je partais pour de bon. C'est étrange à quel point il faut toujours que je me rende aussi loin pour voir ce que j'ai laissé. Les doigts, moi, mon rêve américain, c'est celui qui me ramène à toi. Je fais 100 km et à la vitesse du son, par-dessus les boulevards, les bars et les moments d'absence. Ça vient de qui l'idée de s'éloigner pour mieux voir venir le fond. Encore le fucking va-et-vient des amours à distance. Mes larmes se mélangent à l'eau salée sur mes lèvres, au rythme des vieux qui pilaient de pied dans l'océan. Je fixe le soleil embrouillé qui se lève. Je m'imaginais pas que tu m'entendais.
C'était Louis-Jean Cormier, 100 mètres haies sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. On rend hommage à Manu Dibango pour cette première émission de l'été avec un joli souvenir au moment de la sortie de la version 2011 de son titre culte Saul Makossa.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Bonsoir Manu Dibango.
Bonsoir cher ami.
On vient d'écouter en avant-première un titre incroyable qui sera sur votre prochain album. Vous avez collaboré avec Wayne Beckford, une nouvelle star britannique, faiseur de tubes. Qui a eu l'idée de faire Saul Makossa, Manu?
Ah, c'est lui. Parce que alors là, moi quand même, je n'aurais pas eu le culot parce que tiens, il faut éviter de faire la reprise de trop.
Ah c'est ça, ouais. C'est le risque.
Ah ouais, c'est un risque terrible. Alors le gars, il est venu me voir, mais pour autre chose d'ailleurs, c'était pour... le mondial du football, il avait composé un morceau, il avait besoin de ma voix. Donc nous, on jouait à la Villette. pour un truc de Mandela. Il est venu à la Villette, il m'a fait écouter la maquette de ce qu'on devait faire, ça m'a plu. Bon, il est venu ici, il a enregistré ça. Et puis après, il dit, tu sais, tonton Manu, j'aimerais bien faire un truc avec tes anciens trucs. Alors, bon, ça a pris peut-être 3 semaines, il est revenu ici, j'ai écouté ça. Alors là, je suis tombé, là, parce que je... Il a ouvert des pistes que j'aurais jamais pu voir. Et moi, j'ai rejoué par-dessus.
Ouais. Alors, cette fois, vous ne vous êtes pas fait piéger, il y a votre nom en gros sur cette reprise, car à l'origine, ce titre avait été conçu en 72 pour la Coupe d'Afrique de foot, piqué par les Américains ensuite et par un certain Michael Jackson. Et votre idée à l'époque, c'était de rendre universelle une musique métisse, une musique plurielle.
Ben, pour être franc, c'est une phase B.
Oui, c'est ça, en plus. En plus, c'est une phase B. Ouais.
Donc, personne ne se rappelle de l'hymne que j'ai composé.
C'est vrai.
Je suis sûr que vous ne connaissez pas l'hymne. Mais bon, et en plus.
Non, je vous confirme, oui.
Voilà, et puis on a perdu la coupe, donc personne ne voulait plus entendre parler de ce bazar-là, quoi, tu vois, au Cameroun, tout au moins. Et puis, alors, par contre, c'est tombé au bon moment où les Américains cherchaient leurs racines, ou les débuts de Shaft. De la blague exploitation, tout ce genre de trucs. Voilà. Donc, ils sont venus à Paris chercher des disques africains enregistrés par des Africains à Paris. Et voilà, le destin est tombé dessus, franchement. Et à partir de là, évidemment, les aventures commencent. Il y en a qui sont légales, il y en a qui sont pas légales, comme d'habitude.
Alors là, cette version avec Wayne Beckford, ça sonne un peu comme un titre de Michael Jackson. En termes de production, non?
En termes de production, c'est une question de génération. C'est pas moi qui ai produit. C'est Wayne. Et Wayne, il connaît la famille Jackson, d'ailleurs. Et puis ça va avec les Black Eyed Peas. Ça va avec toute cette mouvance-là, tu vois. Beyoncé, Jay-Z et tout ça. Voilà, donc... Il se trouve que c'est une très très belle production, elle est propre, que le gars travaille vraiment bien. Alors là, je peux vous garantir qu'il y a d'autres morceaux, les gens vont être surpris parce que j'ai été moi personnellement très surpris.
Alors pour vous, la musique Manu Dibango, c'est le métissage. Vous dites à ce propos que de toute façon, il n'y a qu'à regarder un piano, il y a des noirs et des blancs.
Ben il y en a un là.
Parler des touches, bien sûr.
Ben évidemment, évidemment. La gamme, elle ne se monte pas unicolore, tu vois. Non, mais je crois que les gens se trompent beaucoup parce que deux cerveaux valent mieux, c'est idiot ce que je dis, mais qu'un cerveau, et que les énergies viennent d'un peu partout. Il faut capter les énergies pour faire la musique. Alors, le gars qui écoute et qui produit la musique avec des œillères, tant mieux pour lui, on est en démocratie, c'est pas la porte. Moi, j'aime bien échanger avec beaucoup. J'ai fait des disques avec tellement de gens, j'ai fait des participations assez étonnantes. J'ai fait des trucs avec des Corses, on a gagné même une victoire de la musique avec ça. C'est ça que j'appelle, moi, faire la musique.
Et quand on vous décrit comme un père de la musique africaine moderne, quelle est votre réaction?
Bon, l'essentiel, c'est qu'on te décrive. Enfin, moi, je fais pas la musique. Je fais pas la musique pour être décrit comme j'ai aucune revendication. Juste que le fait que j'ai la chance d'être musicien, que je veux aller au maximum de mes possibilités dans la musique blanc, noir. D'ailleurs, si vous voyez mon orchestre, c'est mélangé parce que je pense que c'est comme ça que les énergies arrivent. Bon, il se trouve que peut-être par l'âge, par contre, je suis un des doyens pratiquants d'origine africaine, ça c'est vrai.
Et vous êtes un grand défenseur de la francophonie, Manu Dibango. Vous critiquez ouvertement d'ailleurs le durcissement des lois sur l'immigration qui empêche parfois les musiciens africains de venir en France alors qu'ils sont francophones. La francophonie doit-elle être pour vous une patrie ou du moins une zone de libre-échange?
C'est plutôt une zone de libre-échange. Et puis, de toute façon, l'histoire a voulu que les 3/4 de pays en Afrique, enfin ceux qui, disons, francophones, parlent français, d'ailleurs. C'est assez étonnant souvent quand on demande aux gens de prouver qu'ils savent parler français alors qu'ils sont francophones par définition. Voilà des choses qui font que je ne fais pas de politique parce qu'il y a tellement des... Il y a beaucoup de choses qui sont incongrues. On m'a demandé, par exemple, là, j'ai eu une interview où quelqu'un m'a demandé, mais de toute bonne foi, hein, pourquoi est-ce que les musiciens africains ne se réunissent pas pour faire un concert pour la Corne d'Afrique? Mais est-ce qu'ils vont pouvoir venir ici, ils n'ont pas de visa, ils vont faire ça? Voilà, déjà, bon, le gars, il n'a pas pensé qu'il y a un problème de visa. le gars n'a pas pensé que avant de faire des concerts, il faut déjà que les chefs de guerre, là, tu vois, ils n'ont pas d'argent pour manger, mais ils ont d'argent pour acheter des armes, des choses comme ça. C'est pour ça que je ne veux pas faire la politique, parce que c'est... Il y a trop d'hypocrisie dans tout ça, quoi.
Jeter des ponts comme vous le faites, des ponts entre les courants musicaux, comme vous avez toujours fait, Manu Dibango, est-ce le premier acte pour la tolérance et pour l'acceptation de toutes les cultures, alors ?
Ben, je pense que, en tout cas, c'est un acte positif, je ne le vois pas en négatif. Parce que jeter les ponts, c'est déjà essayer d'aller voir chez l'autre, et puis que l'autre vienne chez toi. Si tu jettes un pont, c'est bien pour que les gens marchent là-dessus, dans les deux sens. Et voilà, donc... L'idée de faire des ponts, l'idée d'être compagnon dans la vie, compagnon, parce que c'est les compagnons qui ont bâti ce pays-ci, c'est les compagnons. Et moi, l'idée de compagnon me plaît, les gens qui bâtissent.
Vous êtes un bâtisseur.
J'essaye.
Merci Emmanuel. Je peux vous appeler Emmanuel?
Ben oui, parce qu'au départ c'est comme ça, Dieu est avec vous, alors lequel, je sais pas, mais enfin, bon, je suis avec tout le monde.
Et on pense à tous les proches de Manu Dibango aujourd'hui. Avant de partir à Marseille avec l'artiste créole David Walters et l'écrivain journaliste Franz-Olivier Gisbert, on écoute le groupe belge Loose and the Yakuza. Bon été à tous avec la librairie francophone estivale.
Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Dès la naissance, on nous a promis monts et merveilles. À condition qu'on la ferme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel? Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels. Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires. Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo.
C'était le groupe belge Loose and the Yakuza avec Solo.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérade.
Pour cette première librairie francophone estivale de la saison, on vous emmène au soleil, sous le soleil de Marseille très exactement, avec un écrivain et un artiste très attachés tous les deux à cette ville du sud de la France. Bonjour François-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Bonjour David Walters.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous portez la culture marseillaise tous les deux à votre façon, mais vous êtes des Marseillais d'adoption, David ?
D'adoption, je crois, comme tout le monde ici. Hein. Je pense que tout le monde ici est Marseillais d'adoption. Marseille, les portes du monde, les portes de l'Afrique.
Ouais, moi, ça fait 20 ans que je traîne mes guêtres ici. Donc, depuis le temps, je me suis incrusté. Puis, je crois que je fais partie de la famille, tout de même.
Alors, première étape ici pour ce début de saison. Première étape aussi dans le quartier de l'abbaye de Saint-Victor pour cette séquence. Une abbaye qui surplombe le Vieux-Port. D'ailleurs, on a tout le Vieux-Port face à nous. C'est absolument magnifique. À côté d'Andoum, à proximité du palais du Pharo qui est juste derrière, de la place du 4 septembre quand on va vers la gauche, et puis de la plage des Catalans un petit peu plus loin. Tous ces lieux dont on parle, Franz, dans votre livre. C'est un lieu que vous avez choisi car en fil rouge, il y a ce quartier, cet environnement.
Ouais, enfin, je ne l'ai pas vraiment choisi parce que c'est un roman, mais le personnage principal me ressemble énormément. Bon, avec un côté connard peut-être accentué, parce que je crois pas que je suis aussi lamentable et lâche que ce personnage. Mais j'ai trouvé effectivement plus simple de faire en sorte que ça se passe dans mon quartier. C'est là que j'habite. Enfin voilà, c'est là que je déambule et je vis là, avec de temps en temps, là d'ici, une perspective sur le Vieux-Port qui est juste dingue. Quoi.
Ouais, alors on entend le bruit d'ailleurs des voitures parce qu'il y a une sorte de boulevard circulaire, hein, c'est assez bizarre, qui entoure le Vieux-Port. Et on a un tunnel qui passe dessous, on va de l'autre côté, on passe sous le Vieux-Port. C'est assez étonnant comme construction d'ailleurs.
Oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Marseille. Je pense notamment à la corniche. Mais le tunnel, c'est formidable. Ça simplifie la vie de tout le monde, c'est extraordinaire. Ouais, tout le monde le prend tout le temps.
Et, on va s'approcher.
En fait, il est assez fluide.
On va s'approcher de l'abbaye parce qu'il y a beaucoup de bruit là ici. François-Olivier Gisbert, dans votre livre « Dernier été » paru chez Gallimard, vous êtes le premier d'une longue liste à venir, malheureusement, à publier sur la crise sanitaire.
Mais c'est pas du tout un livre sur le confinement ni sur le Covid.
C'est quand même très troublant, Franz, parce qu'il est sorti au mois de mai et vous parlez du Covid-30, vous parlez de la crise sanitaire. Vous l'avez écrit à toute vitesse pendant le confinement, ce livre ?
Non, pas du tout. Je l'ai commencé il y a plus d'un an et il était fini quand, en mars. Il est prêt pour aller chez l'éditeur. Et c'est vrai que je parle du réchauffement climatique. Il y a un côté un peu crépusculaire dans ce bouquin, sauf qu'évidemment, on se marre tout le temps, enfin, je crois, parce qu'il y a tout un côté grotesque de l'évolution de la société.
Beaucoup d'érision, ouais.
Et donc, il est fini. Je le donne chez Gallimard. Et puis, arrive le Covid. Oh, je me dis, c'est trop con. C'est là-dessus. Enfin, je veux dire, ça va très bien avec. Je le dis à l'éditeur qui dit, ben oui, bien entendu, etc.
Vous l'avez corrigé, alors ?
Oui, j'ai rajouté des petites choses ici et là sur le Covid, avec un côté un petit peu, très moqueur sur la situation, puisque là, je vous signale, les choses sont encore un peu dégradées, et la Corée du Sud envoie des missions humanitaires pour aider la pauvre France qui s'en sort toujours très mal, bien que ce Covid-30, nous sommes dans 10 ans, bien que ce Covid soit quand même moins tueur que le précédent, le Covid-19, que vous venez de connaître.
Ouais, vous savez plus, là.
Oui, oui.
Il est tellement dans la projection qu'il sait plus. Donc, le Covid-30, effectivement.
Vous verrez quand vous aurez mon âge.
Un parti politique unique, un président élu à vie en France et un code de bonne morale appliqué partout. Ça vous énerve, Franz. Je me rappelle d'une émission qu'on avait faite ensemble l'été dernier, où vous disiez déjà que la bonne morale, la pensée unique, ça vous énerve.
Un peu plus. Non, ce qui est tragique, c'est que ça progresse tout le temps. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sors l'artillerie lourde, c'est-à-dire le rire. Et j'aime bien aussi la confrontation des idées, le débat.
Et la provocation, on va y venir dans un instant.
Un peu, évidemment.
Ah oui, carrément.
Sinon, on s'emmerde. Hein.
On va en citer des exemples, Franz.
Ça
va vous énerver encore je m'en énerve.
Oh non.
David Walter.
Faut rire.
David Walter, ça vous énerve, la pensée unique, la bonne morale, comme dit Franz ?
Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Bah oui. Bah, disons que là, avec ce qu'on vient de vivre avec le Covid, c'est un peu comme si on était... Alors c'est dur pour certains, mais moi j'ai eu l'impression de pouvoir vivre enfin la vie que j'avais envie de mener à la maison, avec les enfants, avec les amis, par rapport au boulot. Moi je suis comme Franz, j'écris beaucoup. Alors il écrit des bouquins, moi j'écris de la musique, des textes. Et voilà, ça, c'est comme si c'était une bulle d'air, une capsule. On s'est retrouvé comme ça dans une capsule pendant 3 mois.
Alors c'est sympa pour les oiseaux, ils étaient contents. Hein.
Non, mais
les perruches, dans le quartier, ils prenaient leurs pieds.
Surtout à Marseille, ce qui était incroyable, c'était de retrouver le silence, d'avoir cette ville, d'avoir cette ville immobile. Moi, je vis au bord de la mer aussi, et d'un seul coup, tout ce brouhaha, tous les moteurs, tout ça, ça a disparu. Et c'est vrai que la nature a repris le dessus.
Vous provoquez dans ce livre, Franz-Olivier Gisbert, avec un président qui dit « Allah Akbar » à la fin de ses interventions. Avec l'islam qui a pris le pouvoir sur les autres religions et avec une chancelière allemande transgenre musulmane.
Eh oui, c'est improbable, mais
non,
c'est
mais Franz.
Non, mais on a le droit de rire de tout. Non, mais c'est quoi là? Vous êtes passé de l'autre côté, vous aussi?
Pas du tout.
Du côté des interdits? Non, mais c'est pas possible.
Non, je vous provoque aussi.
Qu'est-ce qui vous arrive là?
Attendez, derrière, on va s'abriter un tout petit peu.
J'ai rien contre les religions, contrairement à certains de mes amis, souvent très proches d'ailleurs.
Ouais.
Je n'ai rien contre les religions, mais les monothéismes ont été source de guerre pendant des siècles. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette tendance. C'est le problème des prosélytismes. Toutes les religions qui se veulent universelles, l'islam et le christianisme, eh bien, il y avait toujours des problèmes parce que elles essaient de se développer.
On s'est abrité du vent et David Walter s'est carrément collé à l'entrée de l'abbaye Sainte-Victoire sur la porte en bois magnifique.
Je pense qu'il va rentrer là d'ailleurs.
Faut pas pousser fort parce que non, elle est fermée je pense. La religion, vous en parlez vous aussi dans vos textes, notamment sur le premier titre qu'on avait beaucoup diffusé, Messie bon Dieu, qui était une reprise, en tout cas une adaptation d'un texte d'un artiste haïtien.
Franz Casseus, un artiste haïtien, c'est un morceau des années 50. Alors moi, la religion a été très présente et toujours très présente dans ma vie parce que chez nous, dans les Caraïbes, il y a beaucoup de catholiques. Bon, on est très catholiques. Alors moi, je suis pas à cheval sur la religion, mais ensuite, je suis parti en famille d'accueil marocaine, donc musulman. J'ai la mère de mon fils est juive. Enfin bon, pour moi, la religion, c'est une méditation. C'est comme ça que je le prends. Et je suis pas attaché à une religion en particulier. En revanche, voilà, j'ai du respect pour les religions. C'est un peu comme à la Réunion, la France disait, ce serait bien un pays où toutes les religions pourraient vivre les unes à côté des autres. Et ben, l'île de la Réunion, pour moi, c'est l'exemple typique.
Exactement. Ouais.
Parce que.
Oula.
C'est
une voiture.
C'est une moto. C'est l'exemple typique parce que justement, on a toutes ces religions qui vivent les unes à côté des autres. Il y a des temples, il y a des églises, il y a des temples, il y a des bouddhistes, des hindouistes, des musulmans. J'ai pas de jugement. Pour moi, la religion, c'est une sorte de méditation, c'est une façon de diriger sa pensée pour atteindre un objectif. Alors, on peut en rire. Moi, j'ai du mal à en rire. Enfin, je peux en rire. C'est-à-dire que si Franz, d'un seul coup, il sort une vanne, je sais que je vais en rire.
Et ça vous a fait rire, là, ce qu'il disait ou pas? Pas trop.
C'est pas que ça m'a fait rire, c'est que je sais que j'ai déjà eu des discussions très aiguës avec des potes, avec des amis. Et maintenant, je fais très attention. Parce que parfois, j'ai pu vexer un pote juif, par exemple, qui me disait « Non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes ?» etc. Donc maintenant, je fais très attention. Pour moi, c'est quelque chose de très intime, très personnel. Et que je ne jugerai pas.
Bon, en tout cas, on boit du pastis dans ce roman marseillais.
Ouais, où est-ce qu'on est? On est à Marseille.
Pas que du pastis d'ailleurs. Aussi.
On va pas citer la marque, mais bon.
Non, il y en a trois, hein, donc ça va vite. Du vin aussi, l'alcool qui va être interdit par le gouvernement.
Ah oui.
Et vous faites un pas de côté, Franz-Olivier Gisbert, et là, c'est très malin. Parce que vous parlez du poète persan Omar Khayyam, qui était un philosophe musulman du XIe siècle et un amoureux du vin. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de citations d'Omar Khayyam qui encourageaient à boire du vin. Et c'est lui qui va devenir, dans votre livre, l'icône, le modèle pour défendre la consommation du vin.
Mais attendez, ce n'est pas malin, c'est très sincère. Vous allez chez moi, vous verrez, il y a son livre, le Roubaïat, que je lis souvent. J'en ai lu des pages pendant le confinement, parce que quand ça va mal, j'adore son... C'est très court. Vous avez des petits modules très très courts.
C'est presque des haïkus. Ouais.
Des haïkus, voilà, presque. On pourrait dire ça presque. Et c'est juste formidable. Il s'entendait bien avec l'imam du coin. Voilà, il n'a jamais eu de problème. Vous voyez, on peut être intelligent aussi. Et lui, c'est un bel exemple. C'est un auteur, je crois, que je porte au nu depuis une trentaine d'années. Je trouve qu'il mérite d'être plus lu et plus connu. Enfin, le Roubaïat, c'est facile à trouver. C'est absolument magnifique.
Bon, allez, on va aller dans un autre lieu sur l'une des citations extraites de votre livre.
Franz-Olivier Gisbert, l'un de vos personnages dit à un moment « Nous ne sommes pas en France. Marseille est un port ouvert à tous les vents, un pays en soi. » Un pays en soi avec un petit village, le Vallon des Auffes. On y va, David Walter, c'est vous qui avez choisi cet endroit.
J'ai choisi cet endroit parce que j'y vis et j'y suis maintenant depuis des années.
Allez, on va se retrouver sur le Vallon des Auffes, ici à Marseille, à quelques kilomètres de là. Voilà, arrivé au Vallon des Auffes, ici à Marseille, avec la mer qui est juste derrière nous. Là, quand on penche la tête, on a la mer.
Il y a le port.
Il y a le port, mais le port, c'est pas pareil.
Oui, c'est pas pareil, mais c'est quand même d'ici que je pars, tu vois, du pont là, quand je vais nager le soir. Bon, pas aujourd'hui parce qu'il y a du mistral, mais je me mets au pont ici. Et puis je pars nager.
Alors décrivez-nous ce que vous aimez, David Walter. Alors, il y a un restaurant très connu ici où on mange la bouillabaisse, on ne va pas le citer. Une pizzeria très connue aussi.
Oui,
et puis autour des petits cabanons, des petites maisons.
Non, ce que j'aime, c'est que c'est comme si c'était un petit hameau. On est quand même au centre-ville de Marseille, même si Marseille c'est très étendu. Mais c'est un petit hameau comme ça, c'est plein de poésie, c'est magnifique. On pourrait être au bout du monde en vacances et de se dire que c'est sublime. En fait, c'est chez nous et ça baigne de couleurs, c'est hyper authentique. Regarde, les gars, ils sont en train de bosser sur leur bateau. Là, les bateaux, le matin, les pêcheurs arrivent, tu peux acheter du poisson ici. Enfin, tu vis dans un truc. Moi, j'ai vraiment, après, je l'ai choisi. Tous les jours, je me dis que j'ai une chance inouïe de vivre ici. Et à la fois, ce qui me plaît énormément, c'est que bon, c'est vrai que le Vallon des Auffes, c'est devenu un peu prisé, c'est devenu un peu bobo, il faut le reconnaître. Mais ce que j'aime, regarde autour de toi, et ça, c'est vraiment Marseille, c'est que tu peux venir de n'importe quel quartier, tu peux venir des quartiers nord, tu peux venir d'Algérie, tu peux venir d'où tu veux, tu peux venir d'Afrique. T'as accès gratuitement à tout ça. Et ça, c'est ce que je trouve magique dans cette ville. Je t'assure, vraiment.
C'est-à-dire accès gratuitement.
Eh ben, regarde.
Être là, simplement, c'est ça.
Être ouais. Là, la qualité de vie. C'est-à-dire, regarde, les kids, là, ils viennent, ils ont leur bouteille, leur casse-croûte.
Kids, c'est la librairie francophone, David Walter.
Les enfants, les jeunes, les groupes, hein, tout le monde. Et tout ça cohabite. Et je trouve que c'est vraiment magique, je t'assure. C'est vrai. Pour moi, Marseille, c'est ça. Voilà.
Franz-Olivier Gisbert, vous dites dans votre livre « Son statut de port amène Marseille à tout brasser. Les peuples, les classes sociales. La meilleure métaphore de cette ville-monde, le gueux et le milliardaire habillés pareillement, t-shirts, shorts et tongs, qui se disent de tout, d'égal à égal, dans un café du Vieux-Port. » Et c'est vrai que c'est ça le Sud, Franz.
C'est
les tongs, les claquettes, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, ils portent les mêmes.
Voilà, et peut-être même que le milliardaire a un t-shirt un peu plus dégueulasse que le...
C'est vrai.
Et c'est...
Avec des claquettes scène... Gucci.
Ou... Voilà, c'est bon. Ça. Oui, ça, c'est sûr.
Tant qu'à faire. Ouais.
Mais c'est vrai ce que disait notre ami David, c'est que ici, tout le monde est quelqu'un.
David Walters, quand vous faisiez des allers-retours entre la métropole et les Antilles pour les vacances scolaires, quand vous étiez enfant, vous étiez identifié comme un métro, ouais. Comme on dit là-bas, un métropolitain. Mmh. Comment vous avez réagi à ça? Ça a été difficile pour vous, hein?
Ouais, ça a été dur, parce que finalement, je dirais pas que c'est du racisme, mais une sorte de xénophobie. Et là, ce premier rejet, finalement, je l'ai senti chez moi.
Ouais, ouais.
Je l'ai senti chez moi parce que j'ai grandi en France. Parce que voilà, j'étais nommé métropolitain, tu vois. Et puis après, bon, j'étais sportif de haut niveau, donc d'un seul coup, tu deviens l'enfant du pays quand tu réussis des trucs. Donc,
vous faisiez quoi ?
Moi, je faisais de l'athlétisme.
Ah oui.
Donc c'est différent. Puis après, la musique, ça m'a aidé. Et puis c'est aussi, c'est ma grand-mère qui m'a initié au créole. Et puis après, c'est une langue que j'ai cherché à travailler comme on travaille l'anglais, comme on travaille l'espagnol. Donc tu vois, au lieu de faire des chansons en anglais, ben, je me suis dit, je vais travailler mon créole. Parce que c'est une langue qui est très jeune, parce que ça représente beaucoup pour moi d'abord. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille vraiment. C'est-à-dire que même sur cet album Soleil Créole, j'ai travaillé avec beaucoup d'auteurs caribéens, des auteurs de Martinique, de Guadeloupe. C'est important de mettre le créole à l'honneur parce que ça porte ma culture et c'est de là que je viens.
Bon, merci beaucoup, François-Olivier Gisbert.
Merci. Merci. Et à bientôt à Marseille.
Et à bientôt à Marseille. Merci, David Walters. Merci. Vous allez rester avec nous presque, puisque depuis le Vallon des Auffes, au bord de la mer, on va écouter David qui nous a offert un titre acoustique dans nos studios. Voici un extrait de son nouvel album dans une version exclusive pour la librairie francophone estivale sur France Inter, la RTBF, la RTS, Radio-Canada et sur RFI. David Walters.
Pa pa la pam piva pa 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 la pam piva le la via malchune oni kuye mwa mo ke kui vini pe fe un baga e pao la via ke ule oni kuye mwa kuye mwa kuye mwa kuye mwa kuye kuye mwa kuye mwa kuye hu hu okela ojala okeba okebo okela ojala ojala okeba love tembe ke montreal ke mel keba fos by love
David Walters avait crié moins sur votre radio francophone dans notre studio pour la librairie francophone estivale. Une nouvelle escale à présent avec un voyage à Montréal dans le célèbre casino avec une personnalité tantôt controversée, tantôt adulée. Vous allez découvrir la grande joueuse Denise Bombardier.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
Si la dame apparaît deux fois, ça donne des parties gratuites. Ah, je l'ai. Bang! Là, j'ai 10 parties gratuites. Là, ça vous donne tout, là.
Mais combien vous avez gagné, là, Denis? Mais
attendez, on va voir.
Mais c'est énorme.
Ben, j'ai gagné...
Ça monte.
Ben, j'ai gagné 30 $, voyez-vous.
Ben, c'est
voilà.
Pas mal.
Et voilà. voyez le bruit que ça fait, marqué Big Win. $30, Big Win.
Voilà, on est donc au casino de Montréal. Bonjour Denise Bombardier.
Bonjour.
Vous connaissez tout le monde ici déjà ?
Non, tout le monde me connaît.
Vous dites bonjour en tout cas.
Mais je peux venir, oui, mais je rentre dans une pharmacie, c'est pareil. Je rentre à l'hôpital, c'est pareil.
Les gens sont surpris de vous voir dans un casino ?
Oui, les gens étaient surpris quand ils ont appris que j'écrivais un livre sur le casino. Mais j'adore ça. Je veux dire, j'adore cette déstabilisation parce que ça explique beaucoup de ce que des préjugés autour du jeu. Et c'est intéressant parce que de toutes les activités humaines un peu, disons un peu délinquantes, le jeu est celle qui est le plus mal perçue. Hein? Quelqu'un peut vous dire qu'il prend de la drogue, oh, j'en ai fumé du bon, ou je m'en suis fait 2-3 lignes. Il va même le dire publiquement, il y a des artistes qui font ça. Mais le jeu, c'est infiniment plus compliqué.
On va se balader un petit peu, d'accord. Parce que l'espace est immense. Il y a plusieurs salles ici. Alors c'est un casino un peu particulier. Vous l'expliquez dans le livre d'ailleurs, parce que vous faites un tour d'horizon des casinos du monde, avec un concert là, qui est en train de se jouer derrière. Et vous dites que le casino de Montréal n'a pas un espace dégagé, c'est une sorte de labyrinthe.
Mais c'est assez, oui, normal, oui, c'est sur les plusieurs étages. En fait, ce qu'ils ont fait, au lieu de construire, ils ont voulu économiser, je suppose, je ne suis pas sûre que ça a fait ça, ils ont pris l'ancien pavillon de la France au moment de l'Expo 67, c'est pour le musée toujours, le pavillon. Le général de Gaulle est venu ici. Je suis sûre qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, là où il met les pieds, il y a des casinos avec des machines à sous et des tables, quoi.
Denise Bombardier, les machines à sous sont considérées comme étant le bas de gamme des jeux de hasard. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et c'est aux machines à sous, vous, que vous jouez. Alors, il y a un petit rappel historique, parce que vous racontez qu'à l'époque, elles étaient destinées aux femmes. Quand les hommes jouaient à la table, le jeu de table qui était trop sérieux et qui, je vous cite, exigeait des capacités intellectuelles que les femmes n'avaient pas.
Mais c'est exactement pour ça qu'on a fait la machine à sous. Donc, on n'a pas besoin d'habileté particulière, on n'a pas besoin d'être intelligent, c'est pour ça que je joue.
Et Dostoïevski, vous le citez, parle de cela d'ailleurs dans son roman Le Joueur.
Oui, enfin, je pense que Dostoïevski a tellement bien cerné la passion du jeu. Que la passion du jeu, c'est une des passions les plus toxiques, je vous dirais, en un sens. Jouer et vouloir gagner, c'est gagner quoi ? C'est gagner de ne pas mourir, quelque part, vous voyez ? Si on essaie de comprendre cette fascination dans tous les pays, dans toutes les classes sociales, et à tout âge, dans tous les âges, ça fait partie des rêves que les gens se font. Et de nos jours, à quoi on rêve ? De devenir riche et rapidement. C'est pour ça que c'est dangereux pour les jeunes.
On n'est jamais riche en jouant au casino,
mais
Denise
non,
Bombardier.
Mais non.
C'est impossible, autant jouer au loto, oui.
Mais non, c'est une activité comme une autre. C'est une activité qui coûte cher. Il y a des gens qui jouent au golf, qui vont des voyages de golf. Il y a des femmes qui se font masser 4 fois par semaine pour rester jeunes. Ça leur coûte des fortunes. Et ben voilà, le casino, c'est ça aussi. Il faut considérer.
Ça vous maintient jeune, vous, le casino?
Non, moi, ça me lave le cerveau.
Ça vous lave le cerveau? C'est un alibi, ça. C'est un prétexte, Denise, vous le savez, ça.
Non, mais ça me détend. Ça me détend vraiment.
Oui, vous êtes addictive.
Non, je ne suis pas addictive.
Mais si, vous l'êtes un peu. Regardez, on avait rendez-vous à telle heure.
Oui.
Vous êtes arrivé, paraît-il, 20 minutes avant.
Mais je vais vous dire pourquoi.
Et vous êtes allé jouer.
Parce que mon mari n'entre jamais dans un casino. Il déteste ça.
Oui.
Et je crois que j'ai voulu jouer pour un peu l'embêter, je vous dirais. Quand je veux jouer, il n'est pas là, quoi. Vous savez, c'est Freud qui a dit une chose. Il a dit...
Vous avez parlé de sexe, là.
Oui. Freud a dit, il y a deux façons de percevoir la nature profonde de quelqu'un. C'est son rapport au sexe et à l'argent. Voilà. Et on a tous des problèmes avec l'argent.
Alors nous sommes au casino de Montréal, c'est pour ça que vous entendez cette ambiance très chargée ici. Hein. Il y a énormément de machines à sous, c'est un immense casino sur 3-4 étages.
Non, pas tellement, c'est parce que vous n'avez pas vu les grands casinos américains.
Ah oui, non mais c'est pas comparable.
En fait, il y a un jugement moral très très lourd sur les gens qui jouent. Eh bien, je pense que j'ai essayé de décrire justement... Est-ce que c'est à la fois le plaisir et ce que ça peut devenir quand c'est la misère? Mais la misère, on le sait un peu.
Et alors, c'est une histoire de culture aussi, parce que vous avez gagné dans pas mal de casinos. On remarque dans ce livre que vous êtes plutôt chanceuse.
Oui, oui.
Même quand vos amis perdent, vous gagnez. Oui. Et vous êtes aperçue que quand vous êtes aux États-Unis, lorsque vous gagnez à côté de quelqu'un, on vous congratule.
Ouais.
Quand vous êtes en France, on vous jalouse, dans le meilleur des cas. Et quand vous êtes en Chine, on vous observe.
Ah oui, en Chine, je me disais... Moi, j'étais très excitée parce que la machine, je voyais bien qu'elle bougeait avec des lumières. C'est les dernières machines. Donc, la technologie la plus avancée. Donc, il y a des bruits, il y a des sons. Bientôt, il y aura des odeurs. Et tout à coup, j'ai quand même senti derrière moi qu'il se passait quelque chose. J'avais 2 douzaines de Chinois qui étaient derrière moi, qui étaient, mais au garde à vous, et qui me regardaient. Et là, je me tourne vers eux. Mais je souris, moi, signe comme ça, avec des, en voulant dire, j'ai juste très contente et tout. Ils font rien, personne ne rit, ils restent comme ça, sauf un monsieur à la fin, au bout de l'allée, parce qu'ils sont rangés, ils se sont mis en rang, et qui lève le pouce, mais très très bas pour pas que les autres le voient, ou leur dire « Oh, tu l'as eu, donc, le jackpot, on est content. »
Merci beaucoup, Denise Bombardier.
Merci.
Merci infiniment pour cet entretien ici au Casino de Montréal. Votre essai « Jackpot, plaisir et misère du jeu » est paru au Canada, aux éditions de l'Homme, et en Europe, aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Denise.
Merci.
Et on quitte Montréal pour terminer cette émission avec le bonus créole et l'auteur mauricienne Ananda Devi. Vous avez choisi de parler de Lindsay Collen, Ananda.
Oui, c'est une écrivaine mauricienne, mais d'origine sud-africaine, qui a maintenant environ 72, 73 ans et qui a été une activiste depuis sa jeunesse, donc à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, mais également à Londres, au London School of Economics. Et puis elle s'est mariée à un Mauricien, syndicaliste aussi. Elle s'est installée à l'île Maurice dans les années 60. Et là, elle a été d'un engagement constant, à la fois en tant qu'écrivaine, mais aussi politique. Et un de ses livres, Le viol de Sita, était le premier livre, peut-être le seul, interdit à l'île Maurice à sa sortie, à cause de son sujet difficile. Et elle a continué à promouvoir l'écriture en créole, surtout à travers son association qui s'appelle l'Éducation pour Travailleurs.
Voilà, Lindsay Collen, qu'il faut lire pour son immense travail sur la culture créole. Une grande militante, aussi féministe, militante créole et une auteure à découvrir grâce à vous, Ananda Devi.
Absolument.
Merci, on termine avec de la musique mauricienne du coup. Merci à vous.
Diva la bozo to si zana pemeto mwa na pameto mwa si zan moja twa na pameto mwa abeles mo reflexi ki manya mo kwa men sala litla na pameto mwa si zan moja twa na pameto mwa to bizan don mwa kout me si zan pou na men sala kasda na pameto mwa si zan moja twa na pameto mwa. Abeles mo reflexi ki manya mo kwa men sa la villa. Na pa meto mwa sizan mo jatwa na pa meto mwa. To bizen don mwa kout me sizan pou mwa men sa la kazda. Chibiri 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 babam, chibiri chibiri babam.
C'était le groupe mauricien Mets Noir. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Michel Bézican à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons à Bruxelles, à Montréal et en Guadeloupe. Nous ferons aussi un voyage immobile au Vietnam depuis un marché québécois. Et vous entendrez Jean-Christophe Ruffin et Jean-Loup Dabadie dans un club francophone souvenir. Merci à vous d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.